Are you feeling overwhelmed by hormonal changes? If you're a woman, you're not alone. With over 1,000 hormone disruptors in our environment, it's no wonder things can feel out of balance. On top of that, natural changes like PMS, menopause, and other life stages can leave you feeling tired, irritable, and trapped in a constant battle with your body. But here's the good news. You don't have to suffer through it. Hormone Harmony by Happy Mammoth is here to help. This herbal formula fine-tunes your hormones, balancing estrogen, testosterone, and even stress hormones like cortisol, which can contribute to weight gain, racing thoughts, poor sleep, and more. With over 40,000 five-star reviews and a bottle selling every 24 seconds, the results speak for themselves. Ready to feel like yourself again? For a limited time, get 15% off your first order at happymammoth.com using code NEXTCHAPTER at checkout. Visit happymammoth.com today and get your old self back naturally.
All you homeowners have unique needs. Some feel the need to paint their door a vibrant shade of blue. Others have the need to decorate their bathroom with fish, anchors, and other nautical items. And because each homeowner has unique needs, Geico helps you get the right coverage for your home and what's in it. That way, you get exactly what's right for you, even if your needs are unique. Get more with Geico.
Introduction de La Royale Maison de Savoie. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Royale Maison de Savoie, de Grégoire Udriménos.
À Sa Majesté Victor Emmanuel II. Sire, je prie Votre Majesté d'agréer le premier exemplaire de ces études historiques sur votre auguste dynastie. On ne saurait considérer attentivement la longue série des princes, vos ancêtres, qui se succèdent depuis 9 siècles sur le trône, sans être frappé d'un trait particulier de ressemblance entre eux. Ils se ressemblent tous par une qualité morale héréditaire, par l'amour pour leur peuple. Par cette qualité du cœur, plus précieuse encore que les vertus guerrières et l'esprit politique, votre illustre famille a triomphé de toutes les causes de ruine, des révolutions politiques et des révolutions religieuses, des guerres et du temps. Là est le secret de sa puissance et de sa durée. Tel est l'enseignement qui ressortira, je l'espère, de ces études historiques. Bien des volumes ont été écrits déjà sur l'histoire de votre royale maison. Mais le sujet est vaste, offre des points de vue divers et nouveaux, et ne saurait être épuisé. D'ailleurs, il est bon d'y revenir encore. Cela est bon pour vous, sire, car l'exemple des vertus des ancêtres, remis sous les yeux de leurs descendants, est leur sauvegarde en même temps que leur honneur. Cela est bon surtout pour vos peuples, anciens ou nouveaux, car ils apprennent dans l'étude de l'histoire de votre dynastie que sa vertu héréditaire, son rôle séculaire et sa mission traditionnelle, c'est de se dévouer à leur bonheur. Cette vertu du dévouement, vous la continuez, sire, avec éclat. Elle a fait la fortune du passé, elle fera la fortune de l'avenir. Les peuples peuvent avoir des illusions, mais ils ne sont pas ingrats. Eux aussi se donnent à qui se donne à eux. De votre majesté, le très dévoué serviteur, Udriménos. La royale maison de Savoie, ses origines et sa politique. Si l'on pouvait embrasser d'un coup d'œil rapide les destinées de l'illustre dynastie qui occupe aujourd'hui le trône d'Italie, ses agrandissements et ses transformations successives, on aurait assurément l'un des plus grands et des plus intéressants spectacles que puisse offrir l'histoire des familles souveraines. On y verrait une famille de seigneurs féodaux, distinguée entre toutes dès les premiers temps du Moyen-Âge par son esprit politique et guerrier, tenace et persévérante comme toutes ces races de montagne, s'attacher fortement aux deux versants des Alpes, accroître de siècle en siècle ses domaines au moyen d'annexions librement consenties, bien plus que par la force et la conquête, et fonder avec des populations disparates, dont elles forment le lien et l'unité nationale, un petit empire en équilibre sur la crête des monts, solidement lié et solidement assis, penchant au nord ou au midi suivant les besoins de la stratégie et les pressions étrangères, souvent ébranlé par les secousses européennes, mais se raffermissant toujours jusqu'au moment où il tombe de tout son poids sur l'Italie. On y verrait une forte race royale, doué à un degré rare de la faculté de se rajeunir et de se transformer, passer avec aisance de la féodalité à la monarchie absolue, de la monarchie absolue à la monarchie contrôlée par les sénats et les parlements, changer de loi, d'institution et même de pays, sans rien perdre de sa vigueur première, de son prestige, ni de sa popularité. Aucun spectacle n'est plus attachant ni plus fécond en enseignement que de voir une maison souveraine qui compte 9 siècles d'existence historique et qui représente plus qu'aucune autre le principe de l'hérédité et de la légitimité, confondre ses destinées avec celles d'une nation qui secoue un joug séculaire et devenir la vivante expression du droit nouveau des peuples. En associant ainsi sa cause à la cause populaire, nous le répétons, elle n'a rien perdu du prestige qui l'environnait autrefois. Au contraire, pendant que le culte monarchique va s'affaiblissant, pendant que notre siècle démocratique court à d'autres dieux, elle a le singulier privilège de retenir la faveur de l'opinion publique et d'enchaîner le cœur des peuples soumis à son sceptre, et cela chez la nation la plus rebelle jusqu'alors au principe de la monarchie, dans un pays que l'histoire, la géographie et les mœurs semblaient vouer sans retour au fractionnement fédératif, et dont toutes les gloires depuis 12 siècles étaient des gloires municipales et républicaines. En présence d'une fortune royale aussi étonnante, c'est une curiosité bien naturelle d'en chercher les causes et d'en considérer les progrès à travers l'histoire. Plus la maison de Savoie est ancienne, plus on désire connaître d'où elle vient, comment, par quelle vertu elle a grandi, quelles situations diverses elle a traversées, et par quelle vitalité secrète elle a pu survivre aux événements où tant d'autres dynasties ont péri. Sa grandeur actuelle, sa vigueur et sa popularité sollicitent la pensée à en remonter les origines historiques, comme la vue d'un grand fleuve à son embouchure dans la mer invite l'explorateur à en remonter le cours. Une vieille ballade allemande décrit la joie superbe d'un enfant de la montagne buvant à la source inconnue et enjambant le petit cours d'eau qui abreuve là-bas dans les plaines les cités populeuses, arrose un empire et porte les grands navires. Il nous semble qu'on peut ressentir un plaisir analogue à considérer dans ses humbles origines cette antique et glorieuse dynastie et à voir, pour ainsi dire, jaillir du sol le fleuve imposant qui porte aujourd'hui les destinées de l'Italie nouvelle.
Fin de l'introduction. Chapitre 1 de La Royale Maison de Savoie. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Royale Maison de Savoie de Grégoire Udriménos.
Chapitre 1. Le versant occidental des Alpes a été le premier et pendant bien des siècles l'unique théâtre de son activité politique et guerrière. Partie de la gorge profonde de la Maurienne, où les historiens placent son berceau, elle descend des montagnes avec l'Isère et le Rhône jusqu'à Vienne en Dauphiné et à Lyon, pénètre au cœur de l'Helvétie jusqu'à Fribourg et à Berne, et ne s'arrête que devant la puissance grandissante de la monarchie française et des républiques suisses. Elle embrasse ainsi dans sa première évolution le grand arc de cercle que décrivent les Alpes Pennines, grecques et cotiennes, et dont la corde est formée par la ligne du Jura et de la Saône inférieure, c'est-à-dire un pays presque égal en superficie à la Haute Italie. Elle y a glissé du haut de ses sommets sur un fond de population d'origine celtique, fortement mélangée au commencement du 5e siècle avec une race germanique distincte et ennemie de la race franque, avec les Burgondes. L'arrivée des Burgondes sur les versants occidentaux des Alpes marque l'origine d'un mouvement historique remarquable dont la monarchie de Savoie fut le dernier contre-coup. Par ses traditions et par ses origines, elle procède de l'établissement burgonde, auquel on voudra bien, pour cette raison, nous permettre de nous arrêter un moment. La nation burgonde arriva dans ce pays vers l'an 413. Partie des rives orientales de la Vistule au deuxième siècle de l'ère chrétienne, elle avait erré pendant 100 ans dans la vaste Germanie, cherchant partout une demeure fixe et partout repoussée d'un sol déjà occupé. Vandales et Gépides se l'étaient renvoyé comme un jouet sur toute l'étendue de l'Europe centrale, et, suivant l'opinion de plusieurs commentateurs allemands des Nibelungen, c'est dans une de ces rencontres avec d'autres races qu'aurait eu lieu la tragédie sanglante qui fait le sujet du poème. D'abord aussi violente que les autres races barbares qui envahirent l'Empire romain, elle s'était adoucie peu à peu dans les longues épreuves du voyage. L'idée de malheur et de défaite, dit Augustin Thierry, s'était attachée à son nom, et cette longue suite de revers, couronnée par une catastrophe nationale dont la poésie du Nord a fait sa grande épopée, avait adouci son caractère et briser en elle l'orgueil du conquérant et du barbare. Chassée vers le Rhin par l'invasion d'Attila, elle s'unit aux Romains pour lui résister et gagna enfin dans la grande bataille des plaines cataloniques cet établissement si longtemps cherché. Le patrice romain Aétius lui assigna pour demeure le pays qui s'étend de Bâle à l'Isère, concession qui fut plus tard agrandie sur le Doubs et la Saône par l'empereur Anthémius. Les Burgondes s'y introduisirent lentement, moins en conquérant qu'en hôtes pacifiques. Ce ne fut point comme l'invasion des Francs, un torrent qui déborde et ravage, mais un fleuve tranquille qui arrose et féconde. Ils substituèrent, dit un écrivain qui a particulièrement étudié cette invasion, au dogme inexorable de la victoire, le principe plus humain de la fusion graduelle des habitudes et des mœurs. Les terres vacantes n'étaient pas rares alors. La population présentait des vides effrayants, car la centralisation des Césars avait produit ses effets naturels, savoir l'appauvrissement et la stérilité, décrits en très douloureux par l'évêque Lactance. La multitude des salariés, disait-il, était si grande et si énorme les charges publiques que les forces manquaient aux laboureurs. Les campagnes se changeaient en solitude et les cultures en forêt. Les bestiaux diminuaient, les hommes mouraient, et l'on n'en payait pas moins pour les morts. De vastes étendues de territoire avaient été dévolues au fisc par l'impossibilité où le propriétaire était réduit de payer l'impôt. Ce sont ces propriétés fiscales, situées principalement dans la région montagneuse, qui furent attribuées aux nouveaux venus par les autorités municipales gallo-romaines, les seuls qui fussent restés debout au milieu de la dissolution effrayante de l'Empire. Les Burgondes respectèrent les conventions de partage, vivant en bonne intelligence avec les indigènes et les traitant, au témoignage d'un contemporain, Paul Orose, non en sujets, mais presque en frères chrétiens. Ils choisirent de préférence les lieux élevés, les hautes vallées, pour s'y livrer à leur goût modeste, abandonnant à la population gallo-romaine les plus belles terres des plaines. Cette distribution primitive a laissé des traces encore reconnaissables aux caractères extérieurs des populations des hautes vallées, dont la physionomie rappelle tous les traits que l'histoire prête aux Burgondes, leur taille élevée, Sidoine Apollinaire qui exagère probablement, les appelle septipédes, leurs yeux bleus, leurs longs cheveux blonds, leur humeur facile, joviale, un peu bruyante, leur parler à plein gosier. Elle leur rappelle aussi leur caractère inoffensif et respectueux qui les portait à admirer naïvement les merveilles laissées par la civilisation romaine et leur inspirait, au lieu d'une jalousie trop commune pour les grandes existences locales, un goût prononcé pour la société et l'amitié des comtes gallo-romains. Ce peuple singulier fonda ce qu'on appelle le premier royaume de Bourgogne, qui fut détruit en 534 par les Francs. Les causes de cette grande ruine ont été expliquées dans un écrit remarquable de M. B. Oreo. Le peuple burgonde avait reçu le christianisme de la main de missionnaires inconnus qui niaient la divinité du Fils et du Saint-Esprit. Il était donc arien par la foi en arrivant dans sa terre promise. Mais, tolérant par tempérament, ami de la paix, d'un esprit peu ouvert aux spéculations théologiques, il ne prétendit point imposer ses croyances aux populations qui suivaient déjà une autre forme du christianisme et proclama l'égalité du catholicisme et de l'arianisme. Rare exemple de modération que n'imitèrent point les Francs. Ceux-ci, arrivés païens dans la Gaule, s'emparèrent de la forme catholique dont la forte hiérarchie avait séduit leur esprit amoureux de la force, l'embrassèrent et en firent la religion de leur empire. Le droit commun a toujours été considéré comme une tyrannie par les clergés qui aspirent à la domination politique. Le clergé catholique pardonna aux Francs leurs violences barbares. Ces grandes destructions rappelées par Grégoire de Tours, incendies d'églises et de couvents, massacres de prêtres et de moines, il pardonna tout, même son propre abaissement devant des conquérants féroces et à demi païens. Mais les Burgondes, naïfs et désintéressés, mais leur roi Gondebaud, le premier barbare qui ait compris l'égalité des races et des cultes devant la foi, furent pour lui l'objet d'une haine mortelle, source principale des malheurs qui fondirent sur la Burgondie. Les évêques tentèrent d'abord de convertir le roi à l'idée d'une religion d'État, mais n'ayant pu y réussir par la discussion, ils s'agitèrent, recoururent aux moyens violents, signèrent le manifeste séditieux de Langres et finirent par appeler les Francs. La race burgonde n'avait pas les qualités guerrières de ceux-ci, elle repoussa néanmoins les premières attaques sous la conduite de son roi Gondebaud. Mais sous son faible successeur Sigismond, balayée des plaines de la Saône et du Doubs par la cavalerie franque, elle se replia vers les Alpes, où elle fut vaincue par les fils de Clovis. Si la douceur et l'esprit débonnaire étaient des moyens de succès politique,
le peuple burgonde aurait fondé un royaume durable. Mais en perdant son indépendance, il ne périt pas tout à fait. La parole de l'Évangile, « Bienheureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre », s'est réalisée en un certain sens dans l'histoire de ce peuple. Un historien qui a fouillé profondément dans le passé de son pays, Léon Menabrea, fait remarquer justement que la chute du premier établissement burgonde fut moins un changement de mœurs et de lois qu'un changement de dynastie. Le vaincu garda sa loi, cette fameuse loi Gombette adoptée à Genève en l'an 500 dans une assemblée où le gallo-romain entra sur le pied d'égalité avec le burgonde, et promulguée à Lyon l'année suivante par le roi Gondebaud dont elle porte le nom. Le grand principe qui la domine, c'est l'égalité des races.
« Una conditione teneantur Burgundio et Romanus », dit-elle au titre 10.
Les peines sont appliquées sans distinction de race et de condition civile du coupable. Mais ce qui la distingue de toutes les législations, même modernes, c'est qu'elle ignore absolument la religion et n'en parle qu'à la fin, dans un supplément, et encore n'en parle-t-elle que pour recommander la tolérance de tous les cultes et le respect de tous les ministres du culte.
In nullo penitus contemnantur ecclesiae aut sacerdotes.
Cette loi, remarquable monument d'équité pour ces temps de violence et de barbarie, a survécu longtemps aux ruines et aux affreux bouleversements du Moyen-Âge. Elle a suivi les Burgondes dans leur désastre. Elle a traversé avec eux le règne de Charlemagne, qui en recommande encore l'observation dans la province de Burgondie, et l'on trouve jusqu'au Xe siècle des chartes portant cette formule « Ego qui professus sum lege vivere Gundobada », où le signataire déclare vivre sous cette loi. Ses dispositions principales, comme le régime de la dot et de l'augment de la dot, l'indivision de la forêt et du pâturage, le droit de paissance et d'affouage, ont traversé les législations successives de la maison de Savoie, les Statuta Sabaudiae de 1430, les Constitutions royales de 1770, et sont arrivées jusqu'au Code de Charles-Albert en 1837. Tandis que cette loi régissait les Burgondes en corps de nation, ou qu'ils la gardaient encore après leur défaite comme le plus précieux débris de leur courte fortune, il s'accomplit au pied des Alpes une grande œuvre de fusion d'où devait sortir bientôt un nouveau peuple et un nouveau royaume. Des éléments divers amenés par l'invasion et des débris indigènes mêlés et confondus dans le tumulte violent du Moyen-Âge, il se forma aussitôt après la chute de l'Empire de Charlemagne, sur l'espace précédemment occupé par les Burgondes, un groupe complexe dont les efforts ardents vers l'indépendance enfantèrent tour à tour ces ébauches de royaumes aux contours indistincts et mobiles, imparfaitement connus sous les noms de Cisjurane, d'Arles et de Vienne, de Transjurane et de Second Royaume de Bourgogne. Un premier effort eut lieu en 879 à Mantala, sur l'Isère. Le duc Boson s'y fit élire roi et fonda la dynastie des Bosonides qui porte son nom, à laquelle les généalogistes les plus autorisés, Dubouchet, Dozier et Gingin de la Sarra, rattachent la maison de Savoie. Le petit-fils de Boson, Charles Constantin, qui ne reçut de son père Louis l'Aveugle qu'un héritage compromis et amoindri par de malheureuses entreprises en Italie, passe pour le grand-père du premier des Humbert de Savoie. 9 ans après, un second effort plus heureux fut tenté dans la gorge du Valais, à l'extrémité du Léman, dans la région appelée la Transjurane, qui avait été le centre de l'établissement burgonde. Là était située la fameuse abbaye de Saint-Maurice, fondée par le dernier roi burgonde, l'infortuné Sigismond, sur l'emplacement présumé du martyr de la Légion thébaine. Les moines y avaient caché, en souvenir du fondateur, les insignes de la royauté. L'anneau du chevalier romain Maurice, chef de la Légion, sa lance et le diadème de Burgondie, célèbre dans les chroniques de la Transjurane, qui a exercé sur le versant occidental le même prestige que la couronne de fer des rois lombards sur l'autre versant et la couronne de Saint-Étienne en Hongrie. Rodolphe Welf, comte du pays transjurant, tira en 888 ces insignes vénérables du lieu secret où ils étaient cachés depuis la conquête franque, et dans l'abbaye de Saint-Maurice, sanctuaire de la tradition nationale, en présence du clergé, des grands et du peuple assemblé, il les revêtit lui-même, « Sibi imposuit », dit l'analyste Réginon, et fut proclamé roi, l'anneau de Saint-Maurice au doigt, la lance au poing et le diadème sur la tête. Il fonda un royaume qui fut, selon l'expression de Léon Menabrea, l'effort d'un peuple qui cherche à revivre. Ce royaume ressuscitait, mais sur une moindre étendue, le premier royaume de Burgondie. Il était limité au nord par les Alpes bernoises et la Reuss, à l'ouest par le Doubs et la Saône, au midi par le Rhône et la Durance, à l'est par les Alpes qu'il franchissait dans la vallée d'Aoste.
cette création monarchique, qu'il ne faut pas confondre avec la Bourgogne ducale, laquelle a toujours relevé de la couronne de France, compta 4 rois, et devint par le testament du dernier, mort sans enfant en 1032, un fief de l'Empire d'Allemagne qui a entravé pendant des siècles l'extension de la France vers le Jura et les Alpes. Le dernier lambeau de ce fief n'a pu être emporté qu'en 1674 par la conquête de la Franche-Comté sous le règne de Louis XIV. C'est à ce mouvement vers l'indépendance que se rattache directement la Maison de Savoie et sa puissance sur le versant occidental des Alpes. La première figure de cette longue galerie de souverains qui se continue en Victor Emmanuel apparaît auprès du dernier Rodolphe. Ses successeurs immédiats, les premiers comtes de Maurienne et de Savoie, s'efforcent de renouer la tradition burgonde du premier et du second royaume et revendiquent avec obstination l'héritage des pacifiques descendants des héros légendaires célébrés dans les Nibelungen et les Da. L'abbaye de Saint-Maurice devient pour eux un sanctuaire politique et religieux. Ils prennent le titre d'abbé-commandeur comme les rois rodolphiens avaient pris celui d'abbé-comte. Ils mettent leurs acquisitions sous le patronage du saint populaire dans cette région des Alpes, et des églises, des cathédrales s'élèvent en son honneur sur les deux versants. Sous ce vocable vénéré, auquel s'est ajouté celui de Saint-Lazare, Amédée VIII fonde au XVe siècle l'ordre religieux et militaire qui est devenu la première distinction honorifique de la monarchie. Un autre fait témoigne mieux encore de la tendance des premiers princes de Savoie à rattacher leurs droits dynastiques à la royauté burgonde. C'est leur empressement à se mettre en possession, dès 1250, de l'emblème visible de cette royauté. Le comte Pierre II, à l'exemple du premier Rodolphe, tira du trésor de l'abbaye l'anneau du glorieux légionnaire romain. Il n'est plus question de la lance dans les annales de Savoie, et le diadème avait passé aux empereurs d'Allemagne. Mais l'anneau est demeuré le signe consacré de l'autorité souveraine et de sa transmission. Comtes, ducs et rois l'ont porté au doigt le jour de leur couronnement jusqu'à la Révolution française. Ce précieux joyau, d'une valeur intrinsèque considérable, s'est égaré au milieu du déménagement précipité de la royauté sarde en 1796 devant le torrent révolutionnaire français. On voit, dans cet effort des princes de Savoie pour renouer la tradition burgonde, apparaître déjà leur politique toujours attentive à mettre le droit de son côté, habile à se couvrir du prestige des anciens rois, et qui vient encore de se manifester tout récemment dans les négociations entamées avec l'Autriche pour obtenir d'elle la couronne de fer des rois lombards. Appuyé sur ses traditions populaires, il parvint rapidement à établir leur autorité sur une grande partie du second royaume. Il est curieux de les voir à l'œuvre dans ces faibles commencements. À la manière dont ils débutent, on peut deviner déjà leurs qualités politiques et pressentir leur future grandeur. Le chef de la famille, Humbert aux blanches mains, entre sur la scène de l'histoire par un coup de théâtre où éclatent quelques-unes des qualités qui font les grandes races. Il choisit sa voie avec une promptitude de mouvement et une sûreté de coup d'œil réellement étonnante au milieu des événements qui suivirent la mort du roi Rodolphe. Le chroniqueur Vipo raconte qu'au moment où, dans le pays burgonde comme partout, la féodalité aspirait à se constituer, les seigneurs prirent les armes sous la conduite de deux chefs francs, Eudes de Champagne et Reynold de Mâcon, pour empêcher la réunion du diadème de Bourgogne à la couronne impériale d'Allemagne sur la tête de Conrad le Salique, l'héritier désigné. L'insurrection était déjà maîtresse de tout le versant occidental des Alpes, de Payerne et de Morat jusqu'à l'Isère. Humbert se jeta dans le parti impérial, préférant, dit le chroniqueur, un pouvoir unique, même étranger, à l'anarchie féodale. Défait d'abord et rejeté dans la vallée d'Aoste, il y reforma son armée avec les bandes que lui amenaient les évêques, effrayés comme lui des progrès de la féodalité laïque, et, profitant habilement des passages qui ont été si utiles à ses descendants, il franchit le Grand Saint-Bernard au milieu de la neige, tomba sur l'armée des seigneurs dans le Valais, la dispersa, et vint donner la main à l'empereur Conrad qui s'avançait par l'Helvétie allemande. La marche hardie d'Humbert, qui assura l'héritage du second royaume aux empereurs d'Allemagne, a eu les résultats les plus heureux sur les destinées de sa maison. L'Empire a mené sur les Alpes occidentales, sur le Doubs et la Saône, a été le bouclier qui l'a couverte contre les entreprises des souverainetés plus puissantes créées à côté d'elle et en même temps qu'elle, les dauphins du Viennois, les ducs de Bourgogne et enfin la monarchie française. Sans cet abri protecteur, 20 fois dans sa longue existence, elle aurait été écrasée contre les Alpes. Enfermée dans ce fief impérial comme dans une forteresse, à couvert sous le prestige du Saint-Empire, elle a pu se développer lentement, traverser l'âge critique de la formation des grandes monarchies fatales à tant d'autres souverainetés féodales, s'arrondir par degrés, prenant ici une ville, là une vallée, étendant de jour en jour son patronage sur des populations opprimées par un seigneur ou par un évêque. Pour la récompenser du service qu'elle leur avait rendu, les empereurs, trop occupés en Allemagne et en Italie, l'oublient ou la laissent tranquillement s'agrandir, pourvu qu'elle se reconnaisse leur vassal. Par eux, la Savoie est érigée en comté, puis en duché. Par eux, un successeur d'Humbert, Amédée VI, est revêtu du titre de vicaire impérial, dignité qui a fait des petits comtes de Maurienne les grands juges de la féodalité et leur a valu une autorité que la monarchie française n'a conquise qu'au prix de longues guerres avec ses grands vassaux. Enfin, parvenant à force d'habileté à se faire passer pour héritière d'un droit monarchique antérieur, elle supplante peu à peu l'Empire dans un fief impérial et s'y attribue la plénitude de l'autorité souveraine, ce qui a fait dire à des historiens peu instruits de ses origines, à Guichenon et à d'autres, qu'elle n'avait jamais été la vassale des empereurs. Au milieu du XIIIe siècle, alors que le droit de l'Empire subsiste encore incontesté, la puissance de Savoie s'étend à travers les Alpes, de la plaine de Turin à l'Oberland bernois, de la vallée d'Aoste à Lyon et au Rhône, et même dans le Rhône, jusqu'où peut aller un cheval sans nager, dit un ancien traité de délimitation cité par Léon Menabrea. C'est en se développant du côté de Berne qu'elle se trouva, en 1265, face à face avec le chef de la famille des Habsbourg, dont les destinées offrent plus d'un trait d'analogie avec les siennes. Parties toutes deux du versant occidental des Alpes, elles ont suivi un mouvement analogue d'Occident en Orient, déplaçant de siècle en siècle, sous la pression de la France, le centre de leur domination. Mais l'une, plus libre de ses mouvements, plus habile à se conformer aux circonstances et aux accidents du voyage, suivant et devançant parfois les progrès dus à l'esprit particulier des peuples qu'elle s'assimilait et à l'esprit général du siècle, n'a cessé de croître et de se fortifier, tandis que l'autre, raide et compassée, conservatrice à tout prix, le dos tourné à l'avenir et n'avançant que malgré elle, a vécu toujours contestée, ne laissant sur ses derrières, dans les pays qu'elle devait abandonner, ni regret ni sympathie, et a fini par déchoir de son ancienne grandeur. Leur première rencontre fut un choc. Rodolphe de Habsbourg avait été l'agresseur, et il fut vaincu par Pierre II, que ses exploits et son génie organisateur ont fait surnommer le Petit Charlemagne. Depuis cette première rencontre sur le champ de bataille, ces deux familles ont déposé leur haine, elles se sont liées par des services mutuels, par des traités politiques et par des mariages. Souvent même, forcée de reculer devant la pression française devenue trop forte, la maison de Savoie a dû chercher en Allemagne son point d'appui et a trouvé un refuge dans la maison de Habsbourg. C'est avec les secours de l'Autriche qu'Emmanuel Philibert et le prince Eugène ont par deux fois reconquis l'héritage de leurs ancêtres. Tant que l'intérêt dynastique aura quelque poids dans la politique, il faudra tenir compte de ces liaisons historiques. Qui sait si ces deux vieilles races, n'ayant plus entre elles la nation opprimée qui les divisait et les aigrissait l'une contre l'autre, ne reviendront pas à leur intimité séculaire, aux traités politiques et aux mariages de famille. Leur rapprochement s'est fait par les soins d'un négociateur habile, le général Menabrea, qui a négocié la réconciliation de 1866, n'aura point négligé, sans doute, d'ajouter aux nécessités de la diplomatie ces enseignements curieux de l'histoire. Parvenus à l'Empire en 1274, les Habsbourg ne furent pas plus que leurs prédécesseurs un obstacle aux agrandissements des princes de Savoie dans l'ancien fief impérial. Ils achèvent de le dévorer. Ils acquièrent la Bresse par un heureux mariage avec Sibylle de Beaugé, le Faucigny par un traité d'échange contre leur possession du Dauphiné, le Genevois par un achat à beau denier comptant, les villes de la Suisse, Nyon, Lausanne, Payerne, Moudon et Morat, par des soumissions plus ou moins spontanées et par des donations impériales. Berne fait sa soumission en 1266 et la renouvelle en 1268. D'autres villes, d'autres pays de langue tudesque se soumettent également à Pierre II et à son successeur Philippe. Ces agrandissements de territoire dans les pays de langue allemande n'ont pas eu de durée. La maison de Savoie, française par la langue parlée à la cour, demeurée française jusqu'au transfert de la capitale en Piémont en 1559, la maison de Savoie n'a pu se maintenir en Suisse que dans les limites du pays où le français est parlé. Ne pouvant s'étendre dans la partie allemande de l'ancien royaume de Bourgogne, elle revient sur la partie française, gagne le Bugey et la Bresse, et cherche, sans y parvenir, à tourner le Jura par le pays qui domine Bourg, appelé aujourd'hui le Revermont. Toute la partie du fief impérial située sur le versant français du Jura lui a échappé. Mais cette bande de pays qui forme les départements actuels du Jura et du Doubs l'a préservée des attaques directes des ducs de Bourgogne et des rois de France, et quand ceux-ci s'en emparèrent, elle s'était déjà ouvert une autre issue du côté d'Italie. Il n'est pas sans intérêt d'observer par quels moyens elle est parvenue à se fortifier derrière cette barrière du Jura qui contenait la France, et comment elle s'est assimilée les éléments de la société féodale. Rien de plus propre que ce travail intérieur d'absorption à donner une idée des facultés et du tempérament de la maison de Savoie.
Fin du chapitre 1.
Chapitre 2 de La Royale Maison de Savoie. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Royale Maison de Savoie de Grégoire Udriménos. Chapitre 2. On aurait une bien fausse idée de la domination qu'elle exerçait aux temps féodaux si on se la représentait sous la forme d'une monarchie moderne, unie, compacte, sans solution de continuité. Quoique son autorité s'étendît sur des pays assez vastes, elle était loin d'y obtenir partout la même obéissance. Sa juridiction y était arrêtée à chaque pas par les juridictions féodales, ici par un évêque, souverain temporel dans son diocèse, là par une ville affranchie, plus loin par une multitude de hobereaux bardés de fer et agissant en maître absolu dans leur château. Léon Menabrea a compté jusqu'à 1200 familles seigneuriales en possession de tous les modes de juridiction sur l'espace occupé par la maison de Savoie dans les Alpes occidentales. L'historien auquel on doit ce calcul nous fait assister à leur naissance. Il remonte aussi près de leur berceau que le lui permettent les documents qui sont entre ses mains. Il décrit en termes héraldiques, tout à fait incompréhensibles aux profanes, leur château crénelé, leur organisation militaire, leurs armes et leurs guerres. Dénombrement curieux, dans lequel on ne voit pas sans intérêt figurer des familles qui comptent encore des représentants dans le pays, ou qui, transplantées ailleurs, sont devenues des illustrations nationales des pays qui les ont reçues. Cette région des Alpes semble avoir été, dès le Moyen-Âge, une sorte de réservoir humain toujours rempli, d'où la vie a coulé sans cesse et s'est répandue comme les torrents et les rivières qui y prennent leur source. De bonne heure, les ambitions féodales se sont senties à l'étroit dans ce coin de terre, aussi bien que les existences les plus humbles. Et l'on voit de grandes familles, d'abord vassales des comtes et des ducs de Savoie, refluer sur les autres pays pour y chercher un plus vaste théâtre d'activité. En France, les familles alliées des Coligny et des Montbel d'Entremont, dont l'héritière, mariée en seconde noce à l'amiral 6 mois avant le massacre de la Saint-Barthélemy, disparaît dans une prison ignorée, coupable seulement d'avoir été un moment l'épouse du grand homme. En Hollande, Marnix de Saint-Aldegonde, l'auteur du compromis des nobles, par où commença la guerre de l'indépendance, le puissant démolisseur de la vieille Église, le conseil et le bras droit du taciturne. À Genève, enfin, Bonivard, le mordant écrivain des chroniques de Genève, le spirituel prieur de Saint-Victor, l'Érasme Savoyard, qui fraya les voies à la réforme et à l'indépendance de son pays. Cette féodalité alpestre présente des traits de mœurs qui la distinguent profondément de la féodalité franque. Elle n'a pas l'orgueil de race de celle-ci, ni sa vanité, ni le besoin de dominer la monarchie et le peuple. On reconnaît en elle les qualités des chefs burgondes, auxquels Léon Menabrea rattache la plupart des anciennes familles de la Suisse française et de la Savoie, leur humeur pacifique, leur esprit docile à l'ascendant royal. Après le premier coup frappé sur elle par Humbert, elle se laisse gagner au prestige impérial qui environne les successeurs de ce prince. Elle descend de ses châteaux plantés sur les sommets des monts, entre peu à peu dans la sphère d'attraction de la petite cour, voyage avec elle de Chambéry à Turin et de Turin aux villes de la Suisse, car ce n'est pas d'aujourd'hui que les princes de Savoie ont l'humeur voyageuse. La situation géographique de leur domaine, jeté sur les deux versants des Alpes, leur a fait de bonne heure une nécessité de ces voyages. Toutefois, pour réduire à une subordination complète et définitive toutes ces petites indépendances, il leur a fallu une patience sans égale. C'est ici que se décèle le tempérament particulier de la maison de Savoie. On ne la voit jamais impatiente ni violente à l'égard des seigneurs qui faisaient obstacle à son autorité. De ces 40 générations de comtes, de ducs et de rois, il en est sans doute plusieurs qui ne font pas grande figure dans le monde, qui sont ou malheureux ou incapables, en qui les traits de la famille semblent bien effacés. Mais on n'en trouve pas un dont on puisse dire qu'il a été méchant, violent ou cruel. Ils se sont avancés peu à peu et à grande peine au travers de cette haute futaie féodale, sans couper ni abattre à la façon de Louis XI, se contentant d'émonder les branches les plus nuisibles, attentifs et bienveillants aux faibles, accordant aux bourgeois des villes et des bourgs murés ces chartes, ces franchises que l'archéologie recueille aujourd'hui avec un si vif intérêt, étendant enfin jusqu'aux populations sans défense des campagnes les soulagements et les garanties que comportait la dureté des temps. Naturellement inclinés vers les petits et les opprimés, ils ont prêté l'oreille aux cris de douleur des pauvres gens que la féodalité opprimait, comme plus tard à celui d'une nation malheureuse et foulée par l'étranger. Et ils sont venus à leur secours par ces chartes municipales qu'on rencontre partout sur la voie de leurs agrandissements. On a beaucoup agité la question de savoir si les libertés communales sont antérieures à la formation de la monarchie ou si c'est la monarchie qui les a fondées. La question nous paraît tranchée, du moins dans les limites du second royaume de Bourgogne. Toutes les chartes dont les princes de Savoie y ont semé leur route sont des confirmations de franchises anciennes et de droits préexistants. Le municipe gallo-romain que nous avons vu distribuer aux Burgondes les terres vacantes, après une disparition momentanée, se reforma de bonne heure sous l'abri de la monarchie de Rodolphe, qui faisait obstacle à l'établissement féodal. Le principe constitutif de la féodalité, savoir l'hérédité des offices et des bénéfices publics, reconnu par la monarchie franque dès l'année 889, ne fut admis au pied des Alpes qu'en 1037 par Conrad le Salique, lorsque celui-ci prit possession du royaume. Et bien que, son principe une fois reconnu, la féodalité n'eût pas tardé à couvrir le pays de ses innombrables rejetons, on vit cependant l'antique liberté éclore et l'emporter partout à l'arrivée et sur les pas de la maison de Savoie. La liberté se fait sa place, elle éclate et se maintient jusqu'aux rases campagnes, loin des villes, là où lui manque la protection des fortes murailles. L'historien s'arrête avec étonnement devant ces populations rurales du XIIe siècle, cantonnées dans les hautes vallées de la Savoie, indépendantes, s'administrant elles-mêmes la justice, véritable oasis de liberté au milieu de la servitude universelle. Sous le règne de Louis II, vers 1450, elles furent saisies d'une émotion étrange. L'esprit qui formait alors les ligues des premiers cantons de la Suisse souffla aussi sur le revers du Mont Blanc, y réchauffa les neiges éternelles et en détacha, s'il est permis de s'exprimer ainsi, une avalanche humaine. Ces populations descendirent en armes la longue vallée de l'Arve, mais elles vinrent se briser, au débouché de la vallée sur la plaine, contre le pouvoir populaire et dès longtemps accepté des ducs. Ceux-ci ne détruisirent point cependant ce dernier asile de l'antique indépendance allobrogique. Et Léon Menabrea cite des jugements rendus par les tribunaux de ces populations libres jusqu'en 1559, après la glorieuse rentrée d'Emmanuel Philibert dans ses états. Ce prince, le véritable initiateur de la politique italienne de sa maison, est aussi celui qui a commencé le premier la délivrance de la population taillable et corvéable à merci. Il vint à son secours par l'édit du 20 octobre 1561 qui abolit les servitudes les plus odieuses. Il parle dans le préambule un langage qui dut paraître bien nouveau à cette époque. « Puisqu'il a plu à Dieu, dit-il, de restaurer l'humaine nature dans sa liberté première, et quoique le nom odieux d'esclavage, introduit par les païens, ait été aboli par les princes chrétiens, nous avons néanmoins trouvé une forme d'esclavage appelée taille ou main morte, qui accable les hommes de charges insupportables sous les noms de Angariès et de Père Angariès. Ému dans notre âme des plaintes de ces malheureux qui désirent sortir de leur misère et se racheter, nous avons délibéré de leur en fournir le moyen. En conséquence, nous avons résolu de délivrer nos sujets de toute condition servile et de les déclarer, eux et leurs biens, libres et francs à jamais, liberi e franchi per sempre. Le moyen qu'il leur offre est remarquable. C'est un système de vente, d'achat et d'échange des droits féodaux. Dans ce système, toute servitude réelle ou personnelle devient un objet de commerce, peut et doit être estimé en argent. Le rachat est d'abord facultatif, mais il est rendu obligatoire par des édits postérieurs qui affectent à cette opération tantôt les biens communaux, tantôt les fonds publics de la monarchie, parfois les deniers privés du prince et toujours le pécule du main mortable. L'indemnité, d'abord librement débattue, fixée ensuite et imposée d'autorité, tel est le levier imaginé pour alléger et pour abolir à la fin le fardeau féodal. Par ce système, la délivrance s'accomplit lentement dans les États de Savoie. Mais, poursuivie avec persévérance, sans secousses violentes et avec le consentement des classes intéressées, elle a produit des effets dont les mœurs portent encore la visible empreinte. Il n'est pas un étranger arrivant en Savoie qui ne s'aperçoive de l'ascendant qu'exerce encore la noblesse. L'esprit des classes inférieures de la campagne ne lui est point hostile. L'atmosphère qui l'entoure n'est pas comme ailleurs chargée de ressentiments amers et de haines inconscientes. Et pour peu qu'elle y mette de la bonne volonté, elle fait bientôt reconnaître et accepter son influence. Cet ascendant n'est pas uniquement dû à l'abaissement de la population rurale, à son manque d'instruction et de bien-être. Car on voit les anciens noms entourés du même prestige dans les cantons républicains de la Suisse française qui ont appartenu jadis à la maison de Savoie. Cet apaisement des esprits est le fruit de sa politique débonnaire, qui a contenu d'une main l'institution odieuse de la féodalité sans l'aigrir, et qui a relevé de l'autre la classe opprimée sans l'exciter à la révolte. Une cause plus éloignée de cet apaisement social, c'est que le servage n'a pas été dans la région burgonde le résultat de la conquête barbare comme dans la région franque. De grands esprits, entre autres Augustin Thierry, ont attribué à cette première cause des conséquences sociales qui ne sont pas encore annulées par la civilisation moderne. Une des formes les plus curieuses de la protection accordée à la classe opprimée, c'est l'institution de l'Advocatus Pauperum, sorte de ministère public spécialement chargé de défendre les intérêts des indigents. Aussi ancienne que la monarchie, elle apparaît déjà dans le statut de Pierre II de 1267, mais elle ne reçut sa forme définitive que dans celui d'Amédée VIII en 1430. L'esprit de cette institution se révèle dans les paroles du législateur. « De crainte, dit-il, que le défaut de ressources pécuniaires n'empêche les personnes pauvres et misérables de faire valoir leurs droits, nous voulons qu'un avocat général des pauvres réside continuellement à Chambéry, et qu'on choisisse pour cet office un homme capable et de grande probité. Il défendra les causes des gens dénués de fortune par devant nos conseils, nos tribunaux et même les tribunaux ecclésiastiques. Il sera payé par nous et n'exigera rien des partis. » Lors de la création du Sénat de Savoie en 1559, ce fonctionnaire fut élevé au même rang que le chef du parquet. Il eut, comme celui-ci, sous ses ordres des fonctionnaires subalternes. La défense du pauvre fut ainsi égalée pour l'honneur et les appointements à la défense de la société. Très utile dans les temps d'oppression, où la grande masse de la population, exclue de la propriété du sol, vivait sous le poids d'une profonde misère, cette institution a fini par être une superfluité dangereuse dans les conditions économiques de la société moderne. De 1815 à 1848, elle a fourni un nouvel excitant à la passion ruineuse des procès au sein de la classe indigente. Elle ne révèle pas moins cette secrète sympathie qui inclinait la maison de Savoie vers les classes opprimées. Celles-ci se sont senties attirées par cette sympathie, et elles y ont répondu par des sentiments de fidélité qui ont survécu à tous les événements, aux révolutions comme aux annexions, et qui ont fait sa force contre les hauts barons de la féodalité. Il est un autre genre de féodalité dont elle n'a pas eu aussi facilement raison. C'est celle des évêques. Ils étaient tous, au Moyen-Âge, des papes aux petits pieds, armés du double pouvoir de l'épée et de la crosse pastorale. L'auteur des Origines féodales n'a pas omis de remonter à celle-là. Il donne l'acte de naissance de ces produits hybrides de l'Empire et du sacerdoce et leur charte de fondation, plus authentique en général, il faut le dire, que celles qui ont constitué le patrimoine romain. La maison de Savoie a dû réduire successivement 5 ou 6 de ces petites papautés temporelles pour dégager sa route du côté des Alpes occidentales. Si elle se trouve aujourd'hui en présence d'une autre papauté, ce n'est point là un fait nouveau dans son histoire, et l'on pourrait deviner la solution que recevra la question romaine par les solutions qui ont été données aux conflits antérieurs de même nature, si les événements permettent au roi d'Italie de suivre les inspirations de la politique traditionnelle de sa famille. L'attitude de ses ancêtres devant les puissances ecclésiastiques a été la même que devant les seigneurs laïcs. Même patience, même égalité d'humeur, même ténacité. Ils ont procédé contre elle non par la force et les coups de main, mais par ce qu'on est convenu d'appeler aujourd'hui les moyens moraux, par un gouvernement plus juste, offrant plus de sécurité et plus de garanties sociales que celui des évêques, affaibli et vicié par le mélange du spirituel et du temporel. Vaincu sans pouvoir résister, l'évêque était forcé par les plaintes et les révoltes de ses sujets de rechercher l'appui du prince, qui ne le refusait jamais, mais à la condition d'entrer de compte à demi dans l'administration temporelle du diocèse. Qu'on nous permette de suivre cette politique de plus près dans un cas particulier, dans les relations du prince Édouard le Libéral avec l'évêque de Maurienne, Aymon de Miolan. Cet évêché était de fondation franque. Il avait été créé par le roi Gontran après la conquête du premier royaume de Bourgogne, agrandi par les rois du second royaume, protégé par les empereurs d'Allemagne, de qui relevaient directement les princes évêques de Maurienne. Jeté en travers de la route du Mont-Cenis, il gênait les mouvements de la maison de Savoie sur les deux versants, et formait devant elle, toute proportion gardée, un obstacle aussi considérable que le patrimoine de Saint-Pierre devant l'Italie nouvelle. L'ayant trouvé tout formé sur ses pas, elle le respecta longtemps selon son habitude. Mais sous le règne d'Amédée VI, le gouvernement de Savoie, qui avait dès lors acquis une certaine consistance et dont l'autorité, partout obéie, tranchait sur l'anarchie de l'administration ecclésiastique, vit son intervention sollicitée. Des mécontentements et des révoltes éclatèrent et furent réprimés par le comte, qui toutefois ne réclama point le prix de ses services. Son successeur, Édouard le Libéral, fut moins désintéressé. En 1322, une insurrection éclata plus formidable que les premières. Les paysans de la rive gauche de l'Arc, se prétendant sujets du comte, attaquèrent l'évêque Aymon de Miolan dans son château d'Arves et massacrèrent ses serviteurs sous ses yeux. Lui-même, échappé par miracle à la fureur populaire, chassé de son siège épiscopal de Saint-Jean de Maurienne, courut chercher un asile sur les terres d'Édouard, à Aigbel, sous la protection du fort de Charbonnière. Alors intervint entre le comte et lui une convention portant le titre de contrat d'association du seigneur évêque de Maurienne et du seigneur comte de Savoie, qui pourrait encore servir de modèle aujourd'hui. Par cette convention, le comte est associé à l'administration temporelle de l'évêque, à la condition que le premier rétablira et maintiendra l'ordre dans le patrimoine. Une fois entré en partage, le comte et ses successeurs n'ont montré aucune hâte de déposséder l'évêque. L'association a duré jusqu'à la création du Sénat de Savoie, pouvoir animé d'un esprit nouveau, qui apportait dans ses rapports avec l'Église un peu de l'humeur querelleuse des parlements français. Entre la compagnie gardienne des droits de la puissance civile et les évêques de Maurienne, la lutte commença bientôt, soutenue d'un côté par des monitoires et des excommunications, de l'autre par des arrêts d'appel comme d'abus et des réductions de temporel. Lutte curieuse, souvent très vive, dont les incidents et les péripéties, racontés par un historien du Sénat, ont donné une grande animation à la chronique locale jusqu'à la veille de la Révolution française, qui a mis fin au débat. Alors est intervenue une nouvelle convention qui a délivré pour toujours l'évêque des soucis de l'Empire en lui accordant un salaire annuel avec le titre pompeux de prince d'Aigbel. Dans leur lutte avec les évêques, les princes de Savoie séparent toujours le pouvoir temporel du pouvoir spirituel. Ferme devant le premier et cherchant à le réduire par tous les moyens pacifiques, toujours respectueux devant le second, dévot à l'excès, d'une soumission si exemplaire et d'une attitude si humble qu'elle semblerait trahir chez quelques-uns d'entre eux une certaine faiblesse d'esprit. Les feuilles publiques de l'Italie ont rapporté naguère le trait de dévotion de Victor Emmanuel, arrêtant sa voiture dans les rues d'une ville et se mettant humblement à genoux sur le marchepied pendant que passait un prêtre portant l'Eucharistie. L'attitude du roi d'Italie en cette circonstance est l'exacte représentation de celle de ses ancêtres devant le pouvoir spirituel. Il n'est pas de race royale plus constamment soumise. Sa dévotion, portée jusqu'aux minuties du cloître, lui donne une physionomie à part, où les traits de l'ascète et du moine se mêlent souvent à ceux du politique et du guerrier. Qu'on ne s'y méprenne pas pourtant. Ces princes dévots savent très bien demeurer maîtres d'eux et chez eux. On dirait même qu'ils ne prennent cet air contrit et humilié que pour mieux résister et pour élargir plus sûrement le cercle de leur autorité et l'étendue de leur domaine. Ils se font volontiers moines, évêques, cardinaux et papes. Rome les canonise et les béatifie. Elle ne sait rien refuser à ses saints et à ses bienheureux. Et, tandis qu'elle ne laisse aucun pouvoir étranger prendre pied sur le sol italien, elle se montre conciliante envers celui-ci, elle en vient avec lui aux accommodements et aux concordats. Le duc Louis II est le premier prince catholique qui ait été investi du droit de nomination aux grandes charges ecclésiastiques dans ses états. Son père, le moine de Ripaille, devenu pape, lui obtint cet avantage unique pour prix de son désistement volontaire de la papauté en faveur de Nicolas V. Par la nomination des titulaires, les princes de Savoie ont tenu dès lors sous leurs mains ces petites papautés temporelles qui avaient jusque-là embarrassé leur marche. Une pourtant a résisté, et cette résistance a été le point de départ du mouvement qui a rejeté la maison de Savoie sur la vallée du Pô. C'est l'évêché de Genève. Magnifiquement assise dans la vallée du Léman, dominant le lac et le cours du Rhône, placée au centre de ses possessions cisalpines quand celle-ci s'étendait au nord jusqu'à Berne et à l'ouest jusqu'à la Saône, Genève en était la capitale désignée par la géographie et par l'histoire. Elle avait à l'égard des futurs développements de la petite monarchie alpestre l'importance qui appartient à Rome aujourd'hui dans l'évolution italienne. Elle avait été la capitale des premiers rois burgondes avant que Gondebaud l'eût portée à Lyon. C'est là qu'avait été adoptée la loi Gombette. Et dans le bassin qu'elle domine s'étaient réfugiés la royauté et la nation burgonde chassée par les Francs. On comprend l'attraction qu'elle devait exercer sur une dynastie nourrie de ses traditions et qui aspirait à refaire la domination des descendants des Nibelungen. Aussi s'efforça-t-elle d'y mettre le pied dès sa première apparition sur les Alpes occidentales. Mais elle y avait été devancée par deux ou même par trois compétiteurs. Par l'évêque, prince souverain en vertu de la bulle d'or de 1162 de Frédéric Barberousse. Par le comte du Genevois, dont le pouvoir indépendant remontait à la déclaration de l'hérédité féodale de Conrad le Salique en 1037. Enfin, par la commune affranchie, plus ancienne encore, puisqu'elle remontait au municipe gallo-romain. De ces trois compétiteurs, le second fut éliminé en 1394 par cet achat à beau denier comptant que nous avons rappelé. Restaient la commune et l'évêque. Il advint à celui-ci ce qui était arrivé à l'évêque de Maurienne. Menacé dans son pouvoir temporel par la commune de Genève, il dut appeler à son secours le Savoyard en lui inféodant la charge judiciaire du vidomne, vice dominus, sorte de vicaire de l'évêque pour l'administration de la justice. À dater du jour où ce modeste fonctionnaire rendut la justice au nom des ducs de Savoie, il n'y eut plus de place que pour lui. Sa juridiction s'agrandit à droite et à gauche, gagnant à la fois sur celle de l'évêque et sur celle de la commune. Il devint un personnage considérable, magnifiquement logé dans le château fort de l'île du Rhône, et sa demeure seigneuriale, gardée par une nombreuse troupe d'archers, servit de pied-à-terre à son seigneur et maître pendant les séjours de plus en plus fréquents et plus prolongés de celui-ci à Genève. Alors un cortège brillant de gentilshommes savoyards se répandait dans la ville et donnait aux bourgeois émerveillés le spectacle pompeux des mœurs monarchiques. La politique de Savoie consistait à s'appuyer tantôt sur l'évêque pour résister à la commune, tantôt sur la commune pour résister à l'évêque. Nul doute que le résultat final n'eût été l'entière soumission de Genève si ce jeu n'avait pas été troublé. Déjà la municipalité inclinait à accepter cette suprématie, et Bonnivard, dans ses chroniques de Genève, nous montre les quatre syndics, les magnifiques seigneurs, comme on les appelait, portant le dais sous lequel le duc Charles III faisait son entrée triomphale dans sa bonne ville. Le pouvoir temporel, diminué par le passage de plusieurs cadets de Savoie sur le siège épiscopal, n'existait plus que de nom. Mais au moment où cette politique patiente allait atteindre le but de ses efforts séculaires, elle fut brusquement arrêtée par l'arrivée d'une quatrième puissance qui changea la face de Genève et du monde. La Réformation fit son entrée à Genève en 1525. Elle rejeta du même coup la monarchie, l'évêque, le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, et fonda la République qui dure encore. La Savoie se heurta violemment à cette puissance nouvelle, qui aurait peut-être succombé sans les secours de Berne et les diversions de la France. Alors commencèrent les grandes épreuves. Les provinces suisses et la Savoie du Nord sont envahies par les Bernois. La Bresse, le Bugey, le Valromey et la Savoie du Midi par François Ier. Cette crise terrible eût été mortelle si la maison de Savoie n'avait eu alors qu'une existence. Mais elle en avait deux. Une sur les versants occidentaux, l'autre sur les versants méridionaux des Alpes. La première finit en 1536 au milieu des convulsions européennes provoquées par la rivalité de François Ier et de Charles Quint. Nous allons la suivre dans la seconde.
Fin du chapitre 2.
Owning a boat comes with a number of perks, like being able to fling your favorite fishing rod around. And here's another perk. GEICO's boat insurance covers your boat and your belongings. And with specialist support from agents that are as passionate about boating as you are, there's so much value that you'll want to high-five someone. But not while you're holding your fishing rod. That's a prized possession. So hold on tight with both hands and keep it covered through boat insurance. Get more with GEICO.